Après la libération de l'île d'Elbe, le général Delattre de Tassigny est nommé commandant de l'armée B, qui deviendra bientôt la première armée française. L'armée d'Afrique, dont quatre divisions s'étaient glorieusement battues en Italie avec des Français libres, héros de Birakem, et des évadés de France, débarque en Provence le 15 août 1944, sous ses ordres, aux côtés des troupes du général Patch.
J'ai le très grand honneur d'être le chef de l'armée française sous le commandement éclairé du général américain Patch à débarquer le 16 août en Provence. Que je vous exprime d'abord très simplement combien émouvant a été pour nous tous l'instant où, quittant le bateau qui nous avait amené sans encombre des rives italiennes de l'Adriatique, nous avons foulé de nouveau le sol de la patrie retrouvée. Cette heure unique, incomparable, nous l'avons attendue dans la rage de l'impuissance au cours des premières années qui suivirent l'armistice de 1940, puis dans l'impatience et enfin dans la fièvre des derniers jours. Et nous l'avions préparé de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de tous nos muscles, de toute notre volonté. Vous, ingénieurs et ouvriers américains qui avez forgé les armes de notre liberté et qui avez fait que nos espoirs ne sont pas restés stériles, soyez-en hautement remerciés. Le débarquement sur les côtes méridionales de la France était, je ne vous le dissimule pas, hérissé de difficultés. C'était non seulement une opération militaire délicate en elle-même, mais encore une grande entreprise maritime et industrielle. Le haut commandement interallié, auquel nous ne saurions trop rendre hommage, résolut le problème après plusieurs mois de minutieuses études. Et tout se déroula, initialement, selon le plan prévu.
Le 15 septembre 1944, après un mois d'efforts ininterrompus, l'avance foudroyante menée depuis les plages de Provence s'achève. Que ce soit aux abords des Vosges ou devant la trouée de Belfort, les hommes de la première armée française marquent le pas. Leur chef ne dissimule pas les difficultés de la tâche.
Le 15 août dernier, j'ai débarqué en Provence, à la tête de plusieurs divisions venant d'Italie ou d'Afrique du Nord. Ce n'était pas seulement l'armée d'Afrique, comme souvent je l'entends appeler ici. C'était une belle armée française. Ces soldats, vous les avez acclamés tout au long de la marche libératrice qui les a conduits en un mois des plages de la Méditerranée au contrefort des Vosges. Il faut que vous sachiez que c'est spontanément, volontairement, que l'immense majorité d'entre eux s'est enrôlée sous nos drapeaux pour la libération de notre patrie. Les uns étaient en Abyssinie, en Érythrée, à Birakem, à El Alamein, répondant dès les premiers jours à l'appel pathétique du général de Gaulle. D'autres ont fait un rempart de leur corps, uniquement de leur corps, devant les troupes allemandes débarquant en Tunisie en novembre 1942 et les ont finalement boutés hors d'Afrique. D'autres enfin, à travers les Pyrénées, à travers l'Espagne, sont venus les rejoindre au milieu de 1000 périls, de 1000 souffrances. Puis, durant les longs mois d'hiver et de printemps, se préparant passionnément au combat, ils ont attendu, avec quelle impatience et avec quelle angoisse, le moment d'accourir vous délivrer. Ce sont eux qui, sous l'habile et courageux commandement de mon cher camarade, le général Juin, ont conquis Rome, Florence, Sienne. 40 000 sont tombés, tués ou gravement blessés. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sur nos frontières de l'Est, s'apprêtent à libérer les plus sacrées de nos provinces et qui s'élancent vers Strasbourg et vers le Rhin.
Pour épauler la 9e DIC, 137 000 hommes, issus des FFI et des FTP, sont venus rejoindre les 256 000 soldats de la première armée.
Le général de Gaulle a récemment décidé que les forces françaises de l'intérieur était une partie intégrante de l'armée. Plus de 60 000 des leurs ont déjà rejoint notre première armée. Les uns sont au combat avec nous, au milieu de nous. Les autres parachèvent leur instruction militaire et reçoivent l'équipement nécessaire à la guerre moderne. Ils viennent à nous, auréolés de la gloire des combats qu'ils ont dû mener clandestinement, sans armes, les mains presque nues, image vivante de la France courageuse se levant contre l'envahisseur. Nous voulons qu'ils conservent parmi nous leur particularisme dont ils sont si fiers, leur nom de maquis, leur cadre, leur chef, leur âme. Nous le voulons parce que tout cela constitue pour l'armée de demain un magnifique apport fait de rénovation, de générosité, de fraternelle compréhension qui la soudera plus étroitement encore au peuple de France. Très vite déjà, tous, ceux des divisions blindées, des divisions d'infanterie, des goumes, et ceux de nos maquis, de toutes ces troupes des forces françaises de l'intérieur, se sont bien compris. Comment auraient-ils pu ne pas se comprendre et ne pas s'aimer? Ensemble, coude à coude, ils vont à l'assaut, au combat, avec le même enthousiasme, avec la même ferveur. Ils ont le même but, faire la guerre, chasser l'ennemi. Ils ont la même confiance dans la victoire totale.
Après la libération de Belfort, de Mulhouse, de Strasbourg, la bataille pour Colmar est déclenchée le 15 décembre. Mais la lutte tourne rapidement à la guerre d'usure. Après d'éclatants succès, voici venu le temps d'indicibles souffrances et de pertes cruelles.
La victoire, c'est l'ivresse du soldat. Elle colore sa vie, elle efface sa fatigue. On fonce en avant, mais lorsque l'élan touche à son terme, quand il faut se terrer dans la boue, organiser les positions conquises et se défendre sans répit contre les réactions incessantes d'un ennemi acharné, alors la neige se fait sale et gonfle les pieds. Le gel brûle, la pluie mouille, la fatigue accable. À l'enthousiasme des jours d'offensive succède la grisaille des besognes quotidiennes, comme les communiqués plus ternes font suite au bulletin de victoire. Mais que de sacrifices, que de luttes, que de souffrances se cachent derrière la pauvreté des mots. Français qui m'écoutez, je vous demande de penser aux soldats de la première armée française, de les connaître, de les aimer comme vous avez aimé vos soldats de 1914. Rien ne serait plus décevant pour eux et d'une tristesse plus morne que de vous croire indifférent à leurs souffrances et d'être, devant la mort qu'ils affrontent chaque jour, des hommes qui ne sentent pas se tendre vers eux l'amour du pays. L'histoire fera la part belle à leurs actes glorieux, mais vous, il faut que vous pensiez à leur misère de tous les jours. Car voyez-vous, cette misère de leur corps et cette souffrance de leur âme, c'est l'aspect humain de la guerre inhumaine. À l'approche de Noël, où les cœurs sont plus sensibles, où chacun sent le besoin d'une tendresse et cherche une épaule fraternelle, vous penserez avec ferveur à vos soldats. Eux aussi, à la France et au monde, ils apportent un message d'espoir.
Bravant la neige et le verglas, affrontant les 8 divisions de la 19e armée allemande, la 1ère armée française, renforcée de la 2e DB et d'un corps d'armée américain, lance son offensive le 23 janvier 1945. La lutte va durer 15 jours. Le 8 février, le général Delattre fait son entrée dans Colmar, enfin libéré.
Des instants comme ceux-ci, c'est bien d'une façon totale et définitive réaliser son rêve. Aujourd'hui, Colmar fête. Les admirables soldats qui l'ont délivré. Colmar fête au premier chef. Les soldats entrés les premiers dans ces murs. Les soldats dont l'héroïsme les a portés à l'entrée même de cette ville en une heure solennelle pour l'histoire nationale. Et je cite tout de suite les admirables fantassins du 109e régiment d'infanterie américaine.
abordant les premières maisons des faubourgs de Colmar, selon un vœu magnifique, se sont arrêtés. Et se tournant vers le chef de guerre admirable, vers le cavalier plein d'allant et plein d'âme, le général Schlasser, lui ont dit « À vous, général français, avec vos chars, entrez dans Colmar !» Et dans une fraternité solennelle, à cette minute du combat, et solennelle, tant affirme rémanent dans l'amitié profonde de nos deux pays et de nos deux armées au souvenir de cette union fraternelle, dont le combat, tant qu'il va de plus pur, de plus noble et de plus généreux les uns vers les autres, cette infanterie américaine, le combat de commande du général Schlesser de la magnifique 5e division du général de Vermezoul, enfin, ils ont libéré Colmar. Et la libération de Colmar, je crois, est le symbole magique de la libération définitive de l'Alsace. Eh bien, je crois que nous pouvons dire que nous vivons pour toujours la libération de l'Alsace. Dans quelques heures, les derniers combats vont finir. Dans quelques heures, nous pourrons dire la première armée française, avec ses deux corps d'armée français, avec son magnifique corps d'armée du général Milburn, de ses quatre divisions américaines, cette première armée française avec toutes ses divisions de l'armée de libération réunies, avec son ensemble de 14 divisions, dont 10 françaises et 4 américaines, bordent le Rhin sur tout son front. Élevant nos pensées et nos cœurs, dire à ces troupes splendides, ces messieurs sont les représentants et les chefs, honneur à l'armée française, honneur à l'armée américaine, et puis, en ce moment où nous sommes là, avant lui, je pense, viendra aussi dans quelques jours, de toute notre âme. Vive le général de Gaulle, le libérateur de la France.
Vive. 8 mai 1945. À Berlin, le général Delattre signe au nom de la France l'acte solennel de la capitulation allemande. L'Europe a retrouvé la paix. Le 2 août, à Kiel, le général fait ses adieux aux glorieux soldats de la première armée.
Au revoir, l'ami Léon, et alors on se retrouvera bientôt. Hein? Au revoir, mon cher intendant, qui m'a servi si gentiment, faire tant d'honnêteté, les intérêts de la première armée française. Hein? Au revoir, mon général. Au revoir, mon petit Kim. Au revoir, messieurs. On va te dire, je suis venu du côté de Goum, la première opération de la première armée française qui est bien. Au revoir, mon père. Au revoir, premier.
Au revoir, Dumas.
Au revoir, mon père. Au revoir, père Dumas. Regardez-moi ça. Ça, c'est le génie de demain, voyez-vous. Hein? Au revoir, Chevillon. Alors, vous trouverez mon petit souvenir. Hein? Au revoir, mon père.
Merci.
Au revoir, Maurice. Au revoir, mon vieux Lépinel. Au revoir, ma vie. Voilà, au revoir, messieurs.
Au revoir, mon vieux.
Au revoir, Kai. Bonne chance. Alors, vous vivez avec moi, hein? Allez. Au revoir, mon vieux. Au revoir, chasseur, bonne chance, hein? 5e bébé, bon Dieu de chien. Allez, au revoir, vous, hein? Merci de nous avoir aidés avec vos chemins de fer dans les moments difficiles. Au revoir, père Chapitre. De tout mon cœur, bonne chance. Au revoir, l'air. Au revoir, vieux frère de la 49. Hein?
Mulhouse avait été libérée par les tanks de la première division blindée qui, premier de toutes les armées alliées, avait atteint le Rhin. À l'occasion des fêtes du premier anniversaire de la libération, le général Delattre retrace pour les Mulhousiens la campagne qui libéra leur province.
Avec eux, avec nos magnifiques soldats venus d'Afrique, luttaient leurs frères de toutes nos régions, tels les Parisiens de la colonne Fabien, devenu 151e régiment d'infanterie, les Languedociens du 81e régiment d'infanterie, les Pyrénéens du 49e régiment d'infanterie et tous nos petits gars de France qui venaient de redonner vie à votre division de Mulhouse, à ma division, la chère 14e, à ces glorieuses unités, le 15-2, le 35, les 2e, 4e et 31e bataillons de chasseurs, à son 4e régiment d'artillerie. La France pour vous retrouver, avait répondu à l'appel de son chef, le général de Gaulle, que vous-même acclamiez dans cette ville le 10 février. À l'appel du général de Gaulle, que vous-même acclamiez dans cette ville le 10 février, dans un élan unanime d'affection et de reconnaissance. Et qu'on ne s'y trompe point. L'union de tous ces hommes, vétérans et jeunes, a fait plus que de remporter une victoire. Elle a redonné une âme à notre jeune armée. En réalisant la synthèse de nos traditions militaires les plus nobles et de la mystique la plus pure et la plus généreuse des forces de la résistance.
Partant de Scheinbenhardt, le 19 mars 1945, le 4e régiment de tirailleurs tunisiens, en tête de toute l'armée française, avait pénétré le premier en Allemagne. 8 mois plus tard, un monument était inauguré en présence de Delattre.
Ce miracle d'unité spirituelle s'est incarné dans l'armée Rhein-Danube. Pour avoir tenu l'enthousiasme et la qualité d'une telle troupe, je garde pleine confiance en l'avenir, car il n'est pas possible qu'un si haut exemple et qu'une ferveur si rayonnante ne connaissent pas de lendemain. C'est là que s'est préfigurée l'armée française, qu'il faut maintenant créer, et qui, en dépit de lenteurs et d'erreurs trop certaines, sera, comme le fut hier, la première armée populaire, jeune, rénover dans ses principes, ses méthodes et ses disciplines en union permanente et franche avec le pays et digne des missions que lui confiera la nation.
Dans une éclosion de drapeaux tricolores, de nœuds noirs et de jupes rouges, Colmar fête à son tour la liberté retrouvée. Depuis la salle des Catherinettes, Delattre s'adresse à la population de la ville.
Vous, Alsaciens, vous n'avez pas oublié. Vous êtes la mémoire vivante et fidèle de la France. Vous savez que le tiers de notre territoire a été libéré par l'armée française. Vous avez admiré son courage, son abnégation, sa discipline. Et vous savez aussi que, forçant l'estime et l'admiration de nos alliés, elle a rendu à la France Toulon, Marseille, Lyon, Dijon, Belfort, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, toute l'Alsace. Qu'elle nous a permis d'être présents à Berlin et de reprendre notre place parmi les grandes nations. Nous connaissons aujourd'hui des temps difficiles dont on ne peut sceller la gravité. 5 ans d'une guerre effroyable et d'une occupation inhumaine sont les causes principales de cette situation. Il va donc falloir envisager de nouveaux sacrifices. Mais si dures que soient les mesures que prendra le gouvernement, il faut cependant que l'armée demeure. Si les circonstances exigent qu'elle soit spartiate, nos soldats et nos officiers n'en seront pas moins durs, purs et lumineux. Le rôle de l'armée ne consiste pas seulement à défendre les frontières d'un pays menacé, ou même à protéger ses frontières contre toutes éventualités. L'armée doit accomplir aussi une mission d'ordre moral dont l'importance est peut-être encore plus considérable. C'est elle qui forge l'armature, l'âme d'une nation. Et ce qui est vrai pour les autres est encore davantage pour nous Français, dont l'histoire est d'abord une histoire militaire, qu'on le veuille ou non. Les héros du passé illumineront le cœur des soldats de demain. Entre eux, nous avons tissé des liens que rien ne saurait rompre. Les couleurs de votre ville, rouge et vert, symbolisent, je le répète, la force et l'espoir. C'est tout ceci que je vous demande de crier avec moi. Vive l'Alsace, vive la France.
Porté en 1947 au sommet de la hiérarchie militaire, lorsqu'il est nommé inspecteur général de l'armée de terre, Delattre demeure l'homme dynamique que la guerre a révélé, voulant faire de l'armée française une école de jeunesse. C'est ce qu'il rappelle au cours d'une conférence aux Annales.
Quand on parle aujourd'hui des jeunes, il est habituel de leur trouver tous les défauts. En croire beaucoup qui ne sont pas tous très vieux, ni laudateur systématique des temps passés. Notre jeunesse marque aussi peu de goût pour le travail que pour la discipline. Elle se passionne difficilement pour quelque cause que ce soit. Ses préoccupations sont d'un ordre à peu près exclusivement matériel. Et, sauf exception, elle place son idéal dans la facilité. Pour ma part, je dis tout net, je me refuse à participer à ce pessimisme désespérant. Parce que je ne ferme les yeux devant aucun des faits dont je suis chaque jour le témoin. Je vois bien toutes les ombres, mais je vois aussi les lumières, et c'est ce qui me fait apercevoir, au-delà d'indiscutables faiblesses, de très encourageantes réalités. N'était-ce pas déjà une réalité magnifique, cet élan de dizaines de milliers de garçons venus des villes et des villages de toutes nos provinces, issus de tous les milieux sociaux comme de toutes les familles spirituelles et participant avec une générosité incomparable dans les rangs de la première armée française aux campagnes de la Reconquête et de Rhin et Danube. Pour qui a vu le courage, la foi, l'énergie de ces jeunes durant le très rude automne de 1944 et pendant l'hiver vosgien, alors qu'ils étaient encore équipés à la diable et mal armés, puis leur enthousiasme au printemps de 45, quand sur le sol allemand, ils vengeaient leurs humiliations passées, pour qui a vu cette jeunesse, il n'est pas possible d'accepter sans appel les condamnations désabusées. J'entends bien l'objection. Ces bataillons ardents n'étaient formés que de volontaires, et de volontaires relativement peu nombreux. Pendant qu'ils se battaient avec tant d'entrain, la masse de leurs camarades du même âge vivait en dehors de la guerre et demandait surtout la libération, des commodités d'existence, la fin des contraintes et l'allègement des restrictions. Cela est trop vrai. Il n'en reste pas moins que tant qu'elle fournit de telles minorités ferventes, une génération manifeste un riche potentiel.